voir donc les reliques de Saint François de Sales et puis donc sa présence spirituelle dans l'Esprit Saint pour nous disposer à recevoir comment il a été touché par le cœur de Jésus. Saint François de Sales est le cœur de Jésus, le cœur de Jésus doux et humble. Donc tout au long de la semaine, nous avons déjà entendu sous différents aspects cette réalité-là. Comment Saint François de Sales finalement est allé à l'école, sur les bancs de l'école de Jésus doux et humble de cœur. Je voudrais seulement faire remarquer sa grande docilité à accueillir les inspirations du Saint-Esprit. Et puis sa persévérance. Sœur Marie-Paul nous a un petit peu raconté comment il avait cheminé pour combattre son tempérament vif et coléreux. Donc, grande docilité aux inspirations de l'Esprit et persévérance toute sa vie. Et je me disais, c'est quand même beau d'avoir une parole de Dieu au cœur qui nous transforme, quoi. Et il y a sûrement une parole plus particulière qui nous a touchés dans l'Évangile et que le Seigneur a fait retentir déjà dans notre cœur. Est-ce que nous nous laissons transformer? Parce que pour chacune, la parole est différente, hein. Et puis surtout, est-ce que je crois qu'il peut me transformer? C'est une autre paire de manches. Ô Dieu, si nous recevions les inspirations célestes selon toute l'étendue de leurs vertus, qu'en peu de temps nous ferions de grands progrès en sainteté. Alors l'amour de François pour le cœur du Dieu du cœur humain, c'est le Dieu de François, le Dieu du cœur humain, pour le cœur de Jésus, cet amour éclate dans tous ses écrits. Impossible en 3 jours d'en faire une petite présentation. Pourtant c'est un projet que j'ai au cœur depuis longtemps. Juste quelques citations qui en disent long. Tu m'entends, Marie? Oui. Que le Seigneur est bon, que son cœur est aimable. Suivons-le dans ce saint domicile. Que ce cœur vive toujours dans nos cœurs, écrit-il un jour à Sainte-Jeanne de Chantal. Puis dans le traité, il parle de ce cœur qui est si gracieux envers les misérables. Et qui n'aimerait ce cœur royal, si paternellement maternel envers nous? Vrai Dieu, que le cœur divin est amoureux de notre amour. dans un sermon. Le Fils de Dieu est réduit sur une croix. Et qui l'y a mis? Certes, ça a été l'amour. Puisqu'il est certain qu'il est mort d'amour pour nous, le moins que nous devrions faire pour lui, c'est de vivre d'amour. Puis cet autre passage. Quand je vois mon Sauveur sur le mont des Olives, c'est-à-dire à Gethsémani, avec son âme triste jusqu'à la mort, il ne se peut dire combien le Sauveur désire d'entrer dans nos âmes par cet amour de complaisance douloureuse. Ouvre donc ton cœur devers moi et je répandrai sur toi la rosée de ma passion qui se convertira en perle de consolation. Ceux qui considéraient François dirent plus tard: Jésus a formé le cœur de François sur le modèle du sien et il l'a rendu le plus doux et le plus humble de tous les hommes. Je ne sais pas, dit un auteur ancien, s'il y a jamais eu un saint qui ait pratiqué plus excellemment la parole du Sauveur, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Et Sainte Jeanne de Chantal, est-ce que vous savez qu'elle aimait l'appeler l'enfant du cœur de Jésus? L'enfant du cœur de Jésus. Oui. C'est dans sa vie également que nous avons à regarder j'ai oublié dans les lettres aussi, dans les lettres que François écrit, chaque fois on trouve un mot, une phrase qui soit il s'exclame tout simplement, c'est une exclamation de son cœur où il y a l'amour du Seigneur qui sort comme ça, soit il invite la personne à laquelle il écrit à se tourner vers le cœur de Jésus d'une manière ou d'une autre. Donc dans ses lettres et donc dans sa vie, il conviendrait de rassembler toutes les manifestations de l'amour de François pour le cœur amoureux du Sauveur, comme il dit souvent. Je me suis souvenue du règlement qu'il s'était fait lorsqu'il était étudiant à Padoue. Si ça vous dit quelque chose, on peut le retrouver dans les opuscules de l'édition d'Annecy. Elles sont longues, les résolutions qu'il a prises, mais les dernières, c'est de prendre tous les jours son repos sur le cœur de Jésus. Il avait 20 ans. Et septième point, et huitième point, finalement, de m'endormir en l'amour de la seule et unique bonté de mon Dieu. Ils suivent plein de lignes où il parle de la bonté de Dieu. Comment la bonté de Dieu l'a touché? Eh bien, il veut s'endormir en pensant à ça, sur le cœur de Jésus. Alors vous imaginez bien que tout l'ordre va être marqué par le feu qui brûlait le cœur de François, à commencer par la fondatrice, Sainte Jeanne de Chantal. et ce sera le terreau sur lequel pourront s'épanouir les révélations du cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie, une soixantaine d'années après. Ceci n'est pas fierté mal placée de ma part, mais vraiment un émerveillement. Comme la correspondance aux intuitions de l'esprit fait merveille. Mais ce que le fondateur de la Visitation a donné comme impulsion à ses filles n'est absolument pas différent de ce que l'évêque de Genève propose à chacun et à tous ceux auxquels il s'adresse directement ou dans ses livres, dans ses sermons, dans ses lettres. C'est la même chose qu'il demande et qu'il offre. Nous verrons donc d'abord comment cet amour du cœur du Christ fonde notre petite congrégation de la Visitation, qui est née à Annecy en 1610, pour vous qui ne le savez peut-être pas, en Savoie. Nous verrons comment cette intuition du départ s'est déployée dans la vie de nombreuses sœurs, avant de s'épanouir avec Sainte Marguerite Marie, dans l'Église, pour l'Église universelle. Puis, François nous proposera d'entrer dans le dynamisme de la louange du cœur de Jésus en méditant un extrait du traité de l'amour de Dieu. Puis, nous pourrons échanger en petits groupes sur la manière dont ce texte, que j'ai photocopié, vous a rejoint. Rentrez. Nous venons de voir comment le Saint François de Sales a été touché par le cœur de Jésus. Et comment, maintenant, dans un deuxième point, comment la Visitation a reçu cette impulsion du cœur de Jésus. Donc, voici un extrait de lettre assez percutant. Il date du 10 juin 1611, c'est-à-dire quasiment pour le premier anniversaire de la naissance de l'ordre. Bonjour, ma très chère fille. Dieu m'a donné cette nuit la pensée que notre maison de la Visitation paix par sa grâce, assez noble et assez considérable pour avoir ses armes, sa devise et son cri d'armes. Au XVIIe siècle, toutes les familles un peu conséquentes avaient toutes leurs armes, leurs blasons, leurs cris d'armes. Donc c'est quelque chose qui était très courant. Et il pense que la Visitation, donc, peut aussi avoir ses armes, c'est-à-dire son blason. J'ai donc pensé, ma chère mère, si vous en êtes d'accord, qu'il nous faut prendre pour arme un unique cœur, percé de deux flèches, enfermé dans une couronne d'épines. Ce pauvre cœur, servant d'enclavure à une croix qui le surmontera et sera gravé des sacrés noms de Jésus et Marie. Il l'a vu au petit matin ou dans un songe. Ma fille, je vous dirai à notre première rencontre mille petites pensées qui me sont venues à ce sujet. Car vraiment, notre petite congrégation est un ouvrage du cœur de Jésus et de Marie. Le Sauveur mourant sur la croix nous a enfantés, nous, petite visitation. Le Sauveur mourant nous a enfantés par l'ouverture de son sacré cœur. Il est donc bien juste que notre cœur demeure par une soigneuse mortification, toujours environné de la couronne d'épines qui demeura sur la tête de notre chef, tandis que l'amour le tint attaché sur le trône de ses mortelles douleurs. Petit billet écrit au petit matin avant de partir à ses rendez-vous et qu'il a fait porter à Sainte-Jeanne de Chantal. Mais de quoi nous sommes-nous rendus compte un peu plus tard? Le 10 juin 1611. Bien sûr, c'est une date mémorable pour l'histoire de la visitation. Mais c'est également une date mémorable pour le culte de la dévotion au Sacré-Cœur. En effet, en 1611, le 10 juin tombait le vendredi après l'octave du Saint-Sacrement, jour que notre Seigneur demandera de dédier à une fête de son cœur à Sainte Marguerite Marie, 65 ans plus tard. Il y a de quoi en être renversé. Comme si l'expérience de François de Sales pour la petite communauté de la Visitation, qui n'était rien du tout, Jésus la voulait pour le monde entier. Que l'Église, oui l'Église, sache officiellement quel était un ouvrage du cœur de Jésus et de Marie. Que le cœur de Jésus, transpercé par l'amour de Dieu et l'amour de l'homme, soit l'emblème de l'Église, œuvre d'amour de son cœur. Avait-il eu, dans cette nuit bienheureuse, la révélation des grands événements à venir, se demande Monseigneur Bougo dans une biographie. Ou bien Dieu ne choisit-il pas la visitation comme pour la récompenser en quelque sorte d'avoir pris pour arme dès son berceau ce cœur couronné d'épines, alors qu'il voulait offrir la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus après les tristes années de dessèchement et de froideur du jansénisme qui arrivait. En fait, dès les premières années, l'origine divine de l'Institut et son opportune nouveauté frappèrent les amis du Saint. Ceux-là surtout qui avaient suivi son histoire et qui l'avaient suivi personnellement dès les premiers jours. On a des lettres assez extraordinaires qui montrent la sensibilité spirituelle de quelques personnes qui l'entouraient. Et un an avant cette nuit que Bougo appelle cette nuit bienheureuse, François médite l'évangile du jour. Et la même chose, ensuite il écrit un petit billet à Sainte-Jeanne de Chantal, c'est comme ça qu'on le connaît. L'évangile, c'était ce jour-là, qui demeure en moi et moi en lui, il porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors il écrit à Saint Jean de Chantal, il m'est bien avis que nous ne demeurerons plus en nous-mêmes et que de cœur, d'intention et de confiance, nous nous logerons pour jamais dans le côté percé du Sauveur. Car sans lui, non seulement nous ne pouvons, mais quand nous pourrions, nous ne voudrions rien faire. Tout en lui, tout par lui, tout avec lui, tout pour lui, tout lui. L'ordre de la visitation, ainsi nous le voyons, c'est une invitation à vivre dans le cœur de Jésus, leur demeure. Et c'est en même temps une invitation à se décider, prendre une décision pour vivre avec lui, en lui, par lui, pour lui. Toute chose, de la prière aux relations, du travail aux tâches ménagères, décider de vivre avec lui, ce que j'ai pris de l'habitude de faire toute seule, ma foi, je peux bien faire ça toute seule, hein. Et puis, dans les moments cruciaux, décider de trouver notre liberté en passant à travers le cœur de Jésus. Cela nous ramène à la messe, bien sûr, vous l'avez remarqué. Du reste, il célébrait la messe quand il a médité cet évangile. Vous savez bien qu'à la fin de la prière eucharistique, il y a cette acclamation merveilleuse, par toi, avec toi, en toi. Amen. Et donc, ça nous ramène aussi au fait que lier action et vie contemplative, cela concerne tout le monde. C'est une invitation à appartenir complètement à Dieu, en vivant en plénitude la présence au monde, à tout ce qui fait le réel concret de toute vie. La citation complète dont je vous ai donné une petite phrase au début. Il écrit à une sœur là. Mais encore une fois, c'est pour tout le monde. Si vous regardez ce cœur, il est impossible qu'il ne vous plaise pas, car c'est un cœur si doux, si suave, c'est-à-dire extrêmement doux, si condescendant, si amoureux des chétives créatures, pourvu qu'elles reconnaissent leur misère, si gracieux, il fait grâce, si gracieux envers les misérables, si bon envers les pénitents. Qui n'aimerait ce cœur royal, si paternellement maternel envers nous? Mettez-le, ce cher cœur, le vôtre, dans le côté percé du Sauveur, et unissez-le à ce roi de tous les cœurs. Il tient ainsi sa porte ouverte afin que chacun puisse l'aborder, y avoir audience. Quelle merveille pour tous! La porte du Seigneur est à jamais ouverte sur le monde. En cette année jubilaire, la porte du Seigneur est toujours ouverte à nous d'y passer, car il tient encore sa poitrine ouverte pour cela. Alors, à la suite de Sainte Jeanne de Chantal, les premières sœurs de la Visitation se tournent aussi tout naturellement vers le cœur de Jésus. Elles étaient instruites par Sainte Jeanne de Chantal, par sa vie, mais aussi parce qu'elle disait au chapitre « Notre doux Sauveur a fait don à notre ordre et à chacune de nous en particulier, don de son cœur. » Pour mieux dire, des vertus qui y résident. Puisqu'il a fondé notre institut sur ce principe, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. C'est le partage qui vous est échu de tous ses trésors, puisque son précieux cœur en est le dépositaire. Jésus nous a choisis pour être les filles de son cœur. Encore une fois, 65 ans avant les révélations du Sacré-Cœur de Jésus à Marguerite Marie. Alors, dans le jardin de la Visitation, il va y avoir une floraison d'âmes qui vouaient à ce cœur sacré leur adoration, leur confiance dans la simplicité de leur vie. En lui, elles trouvent tout. Certaines d'entre elles ont été reconnues dans le cortège glorieux de tous les précurseurs de Marguerite Marie à travers les siècles, parce qu'il y en a eu. Lorsque nous avons parlé des origines de la Visitation, nous en avons cité quelques-unes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de sœur Anne-Marie Rosset. Le jour où, après sa profession, elle est passée au noviciat, elle a voulu embrasser le crucifix du noviciat et elle s'est trouvée les lèvres collées à la blessure de Jésus, sans savoir comment. Et Jésus lui a dit des paroles, toutes des paroles d'amour, qui se terminent par « Nous ne nous séparerons jamais, nous nous aimerons éternellement, cœur à cœur. » J'aurai toujours soin de toi. Puis il y en a une autre un peu plus tard, Anne-Marguerite Clément. Elle reçut du cœur de Jésus une faveur qui l'a rendue les mules de Sainte Catherine de Sienne, l'échange des cœurs. Il y a eu plusieurs sortes de la Visitation comme ça, qu'on ne connaît pas. Le 25 août 1618, donc 8 ans après la fondation de l'ordre, elle faisait profession à Annecy. Et le lendemain, le Seigneur lui est apparu. Et il lui dit, « Ton cœur est à moi, et moi je suis à lui. J'y ai choisi ma demeure. » Voilà. Alors, impossible de citer toutes les sœurs de la Visitation, il y en a tant et tant. Même nous ne les connaissons pas toutes. Mais si vous allez sur le site de la Visitation, dans l'album de famille, à l'onglet Spiritualité du Sacré-Cœur, vous allez les retrouver et faire connaissance avec elles. Il y en a qui vous connaissez peut-être parce que vous nous fréquentez la communauté depuis longtemps, ce sont nos sœurs martyrs de la martyre de Madrid. Elles ont été martyrisées pendant la dernière révolution de 1936. C'est le Sacré-Cœur de Jésus qui faisait le tout de leur vie. Et sur toutes les images que nous avons avec la prière pour demander leur canonisation, que vous avez peut-être eu en main, on les voit autour du cœur de Jésus. Bon. Donc, beaucoup de faveurs extraordinaires. Mais il y avait la vie habituelle de toutes les sœurs et qui les signalait aux prédilections du Sauveur. Vraies filles de François de Sales, dans l'esprit de leur institut, elles étaient des disciples du Sacré-Cœur avant d'en être des apôtres. Les sœurs de la Visitation qui seront si heureuses que de bien observer leurs règles, pourront véritablement porter le nom de filles évangéliques, établies pour être les imitatrices de la douceur et de l'humilité du cœur de Jésus, base et fondement de leur ordre. qui leur donnera le privilège et la grâce incomparable de porter la qualité de fille du cœur de Jésus. Une phrase du début de la fondation encore. Donc ainsi, il y a eu toute une lignée de visitandines privilégiées du cœur de Jésus. Mais elles annonçaient et elles préparaient, un peu comme l'aurore avant le jour, la fille choisie pour être la disciple bien-aimée du cœur de Jésus, la trésorière du cœur de Jésus, la messagère du cœur de Jésus, l'apôtre de son cœur. Vous savez, c'est Marguerite Marie. Un amour de Jésus et Marguerite, c'est fou. Alors, 68 ans se sont écoulés depuis la fondation de la Visitation, et voici que le Sauveur lui-même confirme la vocation spéciale de cet institut, en lui donnant son cœur et en l'appelant à travailler à sa gloire. Bien sûr, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail des révélations que Jésus a faites à Marguerite Marie, ni de la mission qu'il lui a confiée. Mais le mois de juin, le mois du Sacré-Cœur, c'est un grand moment de grâce pour qui voudrait s'y pencher. Alors que nous accueillons les reliques de Saint François de Sales qui sont au milieu de nous, voyons un peu comment la voyante du Sacré-Cœur, morte à l'âge de 24 ans, le 17 octobre 1690, est une véritable fille de Saint François de Sales. En dépit de tout ce qui, apparemment, peut sembler contradictoire, Marguerite Marie s'est si profondément assimilée la doctrine de son fondateur, elle s'est tellement appliquée à la faire passer dans toute sa vie, qu'elle finit par parler comme lui. Si elle n'utilise pas les mêmes mots, ce sont du moins les mêmes vérités qu'elle proclame. Mieux que cela, nous savons que ce qu'elle disait, elle commençait par le faire elle-même. À l'imitation de son père, François, et de celui dont il est dit dans les Actes des Apôtres, Jésus a fait et enseigné. Alors il y a deux points qui sont essentiels pour François de Sales, et on va voir comment Marguerite Marie les a vécus. La conformité à la volonté de Dieu, c'était un vrai culte pour le cœur de François de Sales. Dans ses écrits, et notamment, vous savez, dans le traité de l'amour de Dieu, les livres 8 et 9, qui sont consacrés à l'amour de conformité de notre cœur, de notre amour à l'amour de Dieu, et à l'amour, au bon plaisir, de notre conformité au bon plaisir de Dieu. C'est-à-dire, on va un petit peu plus loin. Donc, il explique que la divine volonté est la suprême raison de tout, la grande maîtresse de notre vie, le principe de valeur de nos actes, que nous devons accomplir par amour en toutes circonstances, sans inquiétude, sans réserve, avec promptitude et abandon. Il explique, et il le fait lui-même, encore une fois, ainsi qu'en témoignera Mère de Chantal. À son procès de béatification, je dis que j'ai connu clairement que notre bienheureux avait une entière résignation, c'est-à-dire consentement absolu, je signe, une entière résignation au bon plaisir de Dieu. Il en dépendait absolument et sans aucune réserve. Il disait que chose quelconque qui lui puisse arriver ne lui ôterait jamais la très résolue résolution qu'il avait d'acquiescer pleinement à tout ce que Dieu voudrait faire de lui et de tout ce qui lui appartenait. Des exemples, il y en a plein dans sa vie. Par exemple, quand Mère de Chantal est tombée si gravement malade qu'on croyait qu'elle allait mourir à plusieurs reprises, tout à fait à la fondation de l'ordre. Il s'est abandonné à la volonté de Dieu et il a dit, ben, si Dieu veut qu'on se retourne avant même d'avoir commencé, ben, nous nous en retournerons. Quand sa jeune sœur est morte, sa jeune sœur qu'il aimait plus particulièrement, c'était le premier baptême qu'il avait célébré, ben, quand elle est morte, là aussi il y a des lettres magnifiques où on voit son... la douceur de son cœur qui dit à Dieu, « Oui, vous l'avez prise, vous l'avez prise. Je l'accepte sans réserve. » Et des exemples comme ça, pour sa maman aussi, la mort de sa maman, on le sait, ça a été pareil. Et puis dans les choses concrètes, à un moment donné, il y a eu beaucoup de travaux à faire parce que la visitation, la petite maison est devenue trop petite très vite. Il a fallu bâtir. Que d'ennuis, que d'obstacles, que... Eh bien, il acceptait tout ce qui se passait en faisant ce qu'il y avait à faire. Mais le cœur tournait vers Dieu. Alors Marguerite Marie, la conformité à la volonté de Dieu, ben, ça ne donne pas un autre ton. Elle a fait un vœu de perfection à un moment donné. Je ferai une continuelle attention de conformer et soumettre ma volonté à celle de mon souverain en toutes choses. Point. C'était le grand fond qu'elle établissait dans ses novices, qu'une parfaite adhérence aux volontés de Dieu qui devait être la règle de toutes leurs actions. Deux petites phrases. Tâchez de marcher toujours dans la liberté des enfants de Dieu, vous conformant, vous unissant à son saint amour, à sa sainte volonté, dans laquelle vous devez faire mourir la vôtre pour n'avoir qu'un même vouloir et non vouloir avec lui. En vérité, il me semble que tout le bonheur d'une âme consiste à se rendre conforme à cette très adorable volonté, car c'est là où notre cœur trouve sa paix, notre esprit, sa joie et son repos. Et de plus, je crois que c'est le vrai moyen de faire notre volonté, car son amoureuse bonté se plaît de contenter celle où il ne trouve point de résistance. Elle parle à ses novices. Hein, donc, on se rend compte que, en regardant toute la vie de Marguerite Marie, on pourrait dire qu'elle n'est que conformité à la volonté de Dieu, comme l'a été son bienheureux père. Pour l'un comme pour l'autre, ce n'était du reste qu'une réponse au tout-puissant attrait de l'amour du cœur de Dieu à l'intime de leur cœur. Le deuxième point important, je l'ai dit, et vous le comprenez, c'est l'humilité et la douceur. Je suis revenue à la déposition de Sainte Jeanne de Chantal pour la béatification de Saint François de Sales parce que c'est en résumé et ça pointe vraiment l'essentiel. Son humilité était cordiale, c'est-à-dire qu'elle sortait du cœur, elle venait du cœur. Son humilité était cordiale, noble, véritable et solide, qui le rendait totalement indifférent à l'honneur ou au mépris. Il avait du reste une très basse estime de lui-même. Autre question. Je dis que la douceur de notre bienheureux Père était incomparable et c'est vérité. Je ne pense pas qu'on puisse exprimer la grande suavité et débonnaireté que Dieu avait répandue en son âme. Évidemment, ce sont des mots que nous n'employons plus beaucoup aujourd'hui, mais quand on les prend à la racine, ils disent bien ce qu'ils veulent dire. La grande suavité, c'est la grande bonté. Et la débonnaireté, c'est encore plus bon que bon. Débonnaire. Il disait que l'esprit de douceur était le vrai esprit des chrétiens. Il me dit une fois qu'il avait été attentif 3 années pour acquérir cette sainte vertu qui le rendait condescendant à tous et faisait qu'il donnait au prochain sa personne, ses moyens, ses affections, afin que chacun s'en servît selon ses besoins. Et Marguerite Marie, bien des témoignages de ses contemporaines nous parlent de son humilité envers Dieu et envers les autres, et disent que son humilité ne faisait qu'une même chose en elle avec la douceur. Procès de béatification. La servante de Dieu a aussi aimé ses ennemis et fait du bien autant qu'il lui a été possible à tous ceux qui lui ont fait du mal. Et il suffisait de lui avoir procuré quelque humiliation et mortification pour s'attirer ses prières et les témoignages particuliers de son amitié. La servante de Dieu a été très humble, de sorte qu'elle se qualifiait de n'être rien. Elle désirait de paraître vile. Elle se réjouissait d'être méprisée. Elle se soumettait à tout le monde, supportant avec une grande douceur les injures qu'on lui faisait, et elle en a eu. Elle n'a jamais montré aucune impatience et colère. Oui, c'est une âme de sainte et une vraie fille spirituelle du docteur de l'amour. Alors bien sûr, c'est une voix extraordinaire, comme il y en a eu aussi pour certaines sœurs de la Visitation. Et au début, ça faisait peur à François et Jeanne, parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient des extases, en veux-tu, en voilà. Alors, un beau jour, ils ont dit, oh là là, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'elles vont devenir. Ils se sont mis d'accord, tous les deux, et ils ont demandé à Dieu de faire cesser tout ça. Alors, François de Sales a célébré une messe, son aumônier a célébré une autre messe, à laquelle Jeanne de Chantal aussi est assistée. Bon, je vous passe les détails, mais Sainte Jeanne de Chantal, elle a eu une lumière d'esprit très grande et une certitude intérieure que la Sainte Trinité avait entendu leurs prières et les avait agréées. Donc, moins de manifestations extérieures. Mais, que si en quelques âmes, il en paraissait quelque chose? Dieu est libre, hein? Il dit, je veux bien, mais je reste libre. Hein? Et donc, s'il en paraissait quelque chose, et s'il se faisait quelques merveilles, Bien, ce serait en hommage et en rapport à la transfiguration de Jésus et des œuvres miraculeuses de notre Sauveur Jésus. À n'en pas douter, Sainte Marguerite Marie est une de ces merveilles, non ? Alors, et nous ? Le cœur du Christ et nous, c'est-à-dire vous et moi, hein ? De révélation en révélation, Jésus livra à Marguerite Marie le message d'amour de son cœur. Mais Marguerite n'a pas eu la prétention d'innover. La dévotion au cœur de Jésus est aussi jeune que l'Évangile. Nous avons connu l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru, dit saint Jean. Et Paul, qui entourait ses frères chrétiens de la tendresse du cœur de Jésus. Alors, être chrétien, c'est entrer dans la dynamique de cet amour de Dieu qui nous a aimés le premier et qui attend en réponse, en retour, une réponse d'amour, libre, généreuse. C'est le dynamisme qui m'a frappé ces derniers temps. Le dynamisme de cette révélation de son amour que Dieu a fait à Marguerite Marie continue de s'inscrire dans l'histoire de l'Église et d'une manière toujours nouvelle. Le message du cœur du Christ prépare celui de la miséricorde divine à Sainte Faustine. Et en même temps, ce message du cœur du Christ explicite d'une manière nouvelle, sur le plan du salut et de la rédemption par l'amour, message de Faustine qui renvoie au cœur de Jésus et le cœur de Jésus qui renvoie à la miséricorde divine. Il y a beaucoup de papes qui en ont parlé. J'ose pas toucher la table parce que chaque fois ça résonne. J'ai pris une petite citation de Jean-Paul II quand il parle de la richesse de la miséricorde en 1980. L'Église semble professer et vénérer d'une manière particulière la miséricorde de Dieu quand elle s'adresse au cœur du Christ. J'emballage. Donc, en poursuivant la méditation de cette réalité merveilleuse de la complémentarité des mystères, des révélations, certaines expressions ou certains passages de saint François de Sales ont pris pour moi un relief nouveau, et notamment la finale du 11e chapitre du livre 5 du traité de l'amour de Dieu. Si célèbre que nous le connaissons vraiment par cœur, je dirais. Mais est-ce que le cœur ne peut pas nous faire entrer toujours dans des nouvelles profondeurs ? Je vous ai préparé un texte que vous pourrez avoir chacun. Mais je vais vous le présenter d'abord pour que dans les petits partages que nous pourrions faire, le démarrage soit plus facile. Alors, ce passage fait partie du cinquième livre. Dans ce cinquième livre, saint François de Sales parle de l'amour, mais des manifestations les plus courantes qui sont la complaisance et la bienveillance. qui se manifeste dans tout amour, pas seulement dans l'amour de Dieu, dans tout amour. Les parents pour les enfants, les maris pour les femmes, etc. On se complaît l'un avec l'autre et on se veut du bien. Complaisance, bienveillance. Mais vouloir du bien à Dieu, c'est quasiment impossible. Il a déjà tout bien. Alors, qu'est-ce que ça va devenir pour nous ? Eh bien, on va se mettre à louer et à désirer louer Dieu toujours de plus en plus, mais comme il est toujours au-delà, ça devient de plus en plus difficile. Alors, François montre comment le cœur qui veut louer Dieu pour ce qu'il est, il essaye d'avoir des compagnons, des aides pour cheminer sur le chemin de la louange. Alors, il va rameuter toutes les créatures pour l'aider à louer Dieu. Mais c'est jamais suffisant, c'est jamais suffisant. Et à un moment donné, il arrive et il voit, il entend la voix de la Vierge Marie. Et il entend que c'est Dieu lui-même qui lui dit, lui demande de chanter ses louanges. Et pourtant, il se dit, mais c'est pas possible. Dieu, il est encore au-delà, il est encore plus grand que la Vierge Marie. Donc, le cœur qui désire louer Dieu infiniment pour l'infinité de ce qu'il est, qu'est-ce qu'il lui reste à faire ? S'adresser à Jésus lui-même. Et donc, il va demander au Sauveur de louer son Père éternel. Mais alors là, il arrive, comme dit François, dans un lieu de silence. Ça le dépasse complètement. Parce que le cœur du Sauveur, le Sauveur qui est vrai homme et vrai Dieu, il loue avec tout son cœur d'homme, son cœur qui est uni d'une manière inséparable au Père et à l'Esprit Saint, autrement dit au Dieu trine et un. Donc, c'est le cœur de Dieu qui ne peut bien louer Dieu. Il n'y a que lui qui puisse bien louer Dieu, je veux dire. Alors, on arrive au passage que j'ai choisi. Où on montre que ce que Jésus peut faire, louer Dieu pour ce qu'il est infiniment, il ne peut le faire que par ce qu'il aime. C'est l'amour qui le fait louer. L'amour du Fils pour son Père. Et alors il peut pénétrer la beauté qu'il veut louer. La louer parce qu'il l'aime, et il aime infiniment la mélodie de la gloire et de la louange de son Père, plus que tous. Autrement dit, s'il nous montre que c'est l'amour qui meut la louange du Fils, c'est l'amour qui doit mouvoir aussi notre louange. Et pour ça, nous arrivons à ce petit passage qui est la finale du chapitre. Je vous le donnerai après. Je vais le lire simplement une première fois pour que vous soyez familiarisés avec tout à l'heure. Tenez, le voilà, ce divin amour du bien-aimé, comme il est derrière la paroi de son humanité. Voyez comme il se fait entrevoir par les plaies de son cœur et l'ouverture de son flanc, comme par des fenêtres, et comme par un treillis au travers duquel il nous regarde. Oui, certes, Théotime, l'amour divin, assis sur le cœur du Sauveur, comme sur son trône royal, regarde par la fente de son côté percé tous les cœurs des enfants des hommes. Car ce cœur étant le roi des cœurs, tient toujours ses yeux sur les cœurs. Mais comme ceux qui regardent à travers des treillis voient, mais ne sont qu'entrevus, ainsi le divin amour de ce cœur, ou plutôt ce cœur du divin amour, voit toujours clairement les nôtres et les regarde des yeux de sa dilection, c'est-à-dire de son amour particulier, pour nous choisir. Mais nous, nous ne le voyons pas pourtant, seulement nous l'entrevoyons. Car, ô Dieu, si nous le voyions tel qu'il est, nous mourrions d'amour pour lui, puisque nous sommes mortels. Comme lui-même mourut pour nous tandis qu'il était mortel, et comme il en mourrait encore si maintenant il n'était immortel. Oh, si nous entendions ce divin cœur, comme il chante d'une voix infinie, d'infinie douceur, le cantique de louange à la divinité, quelle joie, Théotime! Quels efforts de nos cœurs pour se lancer au ciel afin de le toujours ouïr! Il nous y exhorte, certes, ce cher ami de nos âmes. Suce, lève-toi, dit-il, sors de toi-même, prends le vol de vers moi, ma colombe, ma très belle, en ce céleste séjour où toutes choses sont en joie et ne respirent que louange et bénédiction. Tout y fleurit, tout y répand de la douceur et du parfum. Les tourterelles, qui sont les plus sombres de tous les oiseaux, y résonnent néanmoins de leur ramage. Vous avez reconnu bien sûr le cantique des cantiques, hein. Il file l'image du cantique tout au long. Viens, ma bien-aimée, toute chère, et pour me voir plus clairement, viens aux mêmes fenêtres par lesquelles je te regarde. Viens considérer mon cœur en la caverne de l'ouverture de mon flanc qui fut faite lorsque mon corps, comme une maison réduite en masure, fut démoli si pitoyablement sur l'arbre de la croix. Viens, viens, et me montre ta face. Et je la vois maintenant sans que tu me la montres, mais alors, et je la verrai et tu me la montreras, car tu verras que je te vois. C'est vraiment un dialogue d'amoureux, hein? C'est l'échange des regards. Fais que j'écoute ta voix, car je la veux alliée avec la mienne. Et ainsi ta face sera belle et ta voix très agréable. Oh, quelle suavité à nos cœurs, quand nos voix, unies et mêlées avec celles du Sauveur, participeront à l'infinie douceur des louanges que ce Fils bien-aimé rend à son Père éternel. Voilà. Nous sommes invités à considérer attentivement, à contempler. Le divin amour du bien-aimé, bien sûr, c'est celui de Jésus. Mais, je l'ai dit, qui est vraiment Dieu et homme, donc c'est aussi l'amour du Verbe uni au Père dans l'Esprit. Voilà quel buisson ardent brûle dans le cœur du Fils bien-aimé. Comme dans chacun de nos cœurs, de baptisés, unis au Christ. Cet amour miséricordieux de Dieu, un et trine, comme bien-aimé, caracole par monts et par veaux jusque derrière la paroi de l'humanité de Jésus. Il est assis sur le cœur du sauveur. Il regarde par la fente du côté percé de Jésus tous les cœurs. Et puis vous avez vu qu'il y a un va-et-vient entre voir, entrevoir, être vu, ne pas être vu. Je tiens à vous rappeler que pour François, lorsqu'il parle de la foi, ce sont les mots qu'il utilise. Donc il s'agit là de voir dans la foi ce que la foi nous permet d'entrevoir. Je vous avoue que moi, je perds pied complètement quand je lis le divin amour de ce cœur, ou plutôt le cœur de ce divin amour. Quand je pense à l'amour de Jésus et à l'amour miséricordieux de Dieu Trinité qui sont mêlés en lui, dans un cœur humain. Et puis, en plus, c'est nous qui sommes appelés par Jésus. Viens, viens, sors de toi-même, viens me voir. C'est nous qui... Il veut nous mettre en branle. Et alors là, il y a l'appel du bien-aimé à la bien-aimée toute chère. Vous allez partager entre vous, mais viens aux mêmes fenêtres par lesquelles je te regarde, les ouvertures des plaies de mon cœur, ce sont les marques de mon amour. N'aie pas peur de venir me regarder là. Et en fait, dans cet échange de regards, dans cet appel à s'entendre, à faire entendre la voix, c'est vraiment, j'ai retrouvé ce que François dit par ailleurs, quand on s'aime, il faut le dire, il faut que l'autre sache qu'on l'aime, et nous, il faut qu'on sache aussi qu'on l'aime. Il y a, ça fait tout un circuit là, je peux très bien aimer quelqu'un et ne jamais le lui dire, et l'autre, il ne saura jamais que je l'aime. Donc François, il fait toujours attention à ça. J'aime, je le dis, je fais savoir. Je le sais d'abord, j'en prends conscience et je le fais savoir. C'est la même chose avec Jésus et Jésus avec nous. En fait, il s'agit d'une alliance. Voilà. Il s'agit d'une alliance et donc on voit bien que toute vocation... C'est une vocation d'union. Toute vocation, absolument toute vocation d'union. C'est à ça que Dieu nous destine, à nous unir à lui. Et quand on cherche la volonté de Dieu, ben elle est là, la volonté de Dieu. Nous unir à lui éternellement. Je dirais donc simplement pour finir que les plaies du corps de Jésus et le cœur de Jésus, François de Sales l'aimait au sommet de la louange universelle et de la louange des hommes et de la louange de son Fils. Et de la dévotion au Sacré-Cœur, non ? En fait, on est là vraiment au cœur de l'Évangile. Parce que le cœur de Jésus nous fait passer de la passion à la résurrection, à l'ascension, jusqu'à la Pentecôte. Et pour entrer dans la louange trinitaire, de tous les jours, je dirais. Mais encore, il nous donne d'être lavés, purifiés, sans cesse purifiés, tous les jours purifiés. Et alors, notre regard sur toute la création peut nous faire entrer dans la louange des fils de Dieu, des fils de son amour, des fils de son cœur. Voilà ce que je pouvais dire pour présenter ce texte. Mais si vous voulez, voilà, vous pouvez en avoir une copie. Et puis, on avait décidé de faire des petits groupes pour faire circuler la parole, nos réactions, nos questions. Voilà. ce qu'on peut faire maintenant, avant de nous rafraîchir.